Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le chant de l'être et du paraître, de Cees Notteboom, littérature néerlandaise. Deux romanciers confrontent leurs conceptions. Pour le second, qui a la conscience d'autant plus limpide que le succès couronne ses entreprises, il n'importe que de conduire la fiction dans l'ombre naturelle, laissant aux gens de laboratoire les interrogations sur l'écriture. Pour le premier, la fiction s'apparente à la dévoration, car elle mange la vie, s'en nourrit. Et précisément, trois personnages bulgares du siècle dernier qu'il a mis en scène, la belle Laura Fissen, son médecin de mari, un colonel qui s'éprend d'elle, s'introduisent dans son existence par le biais de leur intrigue. C'est à Rome que, par le travers d'un siècle, ils se rencontrent et que le dénouement arrive. Cornelis Johannes Jacobus Maria Notteboom est né le 31 juillet 1933 à La Haye, aux Pays-Bas. Orphelin de père à 11 ans, Cees Notteboom traverse de son propre aveu l'enfance et l'adolescence sans vraiment s'en rendre compte, passant d'un établissement catholique à un autre, au terme d'études secondaires sans relief, mais marquées par l'étude du latin et du grec, le jeune homme consacre la première partie de sa jeunesse au voyage et à l'écriture. Le plus souvent, des récits et des reportages. Entré en littérature très jeune et en fanfare, il est l'auteur à 22 ans d'un premier roman couronné par le prix Anne Frank, Philippe et les autres, en 1954. Ce récit d'inspiration autobiographique est celui d'une traversée de l'Europe par un jeune garçon sans attache, parti sur un coup de tête et un autostop à la recherche d'une mystérieuse jeune fille aperçue en France, retrouvée à Copenhague, perdu à nouveau, définitivement. Parmi la quarantaine de livres traduits en français, une majorité par Philippe Noble, il ne faut pas oublier de nombreux essais sur l'art, la peinture, la photographie, surtout, mais aussi la musique, avec lesquels l'écrivain dialogue depuis toujours. Loin de pratiquer une pure critique esthétique, Cees Notteboom explore et visite œuvres et artistes comme autant de pays ou de villes. Il s'est éteint le 11 février 2006, à l'âge de 92 ans. Il aura cheminé de livre en livre en s'appuyant sur celui du pèlerin, du voyageur et du sourcier. L'écrivain en savait plus long maintenant sur la Bulgarie que quiconque dans son entourage. À vrai dire, ce n'était pas difficile, car à l'exception de quelques rares philatélistes, personne n'avait jamais rien compris aux fouillis inextricables des anciens Balkans. Bosnie, Serbie, Herzégovine, Roumélie, toutes ces frontières dansant de ci de là, couleur errant sur la carte, par exemple sur la carte ethnographique de la Turquie d'Europe et de ses dépendances au début de l'année 1877. Par Karl Sachs, consul impérial et royal d'Autriche-Hongrie, Andrinople. Jaune pour les Bulgares orthodoxes, cismatique, marron pour les Bulgares musulmans, et tout un tourbillon de couleurs jaillit d'un prisme éclaté pour les Gréco-Valaques, les Serbes orthodoxes grecs, les Serbo-Croates catholiques romains. Et par-dessus tout cela, le va-et-vient des frontières politiques, chaque frontière nouvelle abreuvée d'un sang inutilement versé. C'était peut-être le seul avantage de l'histoire qu'il écrivait, de l'obliger, lui, à s'y intéresser, même s'il n'en utilisait pas le centième, à ces visions atroces, macabres, qui montaient en fumée des cartes et des pages, carnage oublié, décomposé, le tissu conjonctif de l'histoire, une souffrance dont on avait peine à concevoir qu'elle avait un jour été réelle et qu'elle avait eu un enjeu. La souffrance, pensait-il, devrait avoir son poids spécifique, être identifiable comme un minerai qui n'existe nulle part ailleurs, une monnaie stable dans laquelle les cadavres, le sang, les blessures, les maladies, les humiliations seraient pris en compte et qu'on retrouverait sur le champ de bataille, dans les prisons, sur les lieux d'exécution et dans les hôpitaux, tel un monument à la signification immuable, en dépit du temps et du lieu. Vaguement irrité, il se rappela sa rencontre avec l'autre écrivain, quelques jours auparavant, à la sortie de la bibliothèque de l'université. Ils avaient bu un café, et l'autre, comme toujours, lui avait ouvert son sac pour voir quel livre il avait emprunté. Cess Nottebone revient dans la Sérénissime, Venise, le lion, la ville et l'eau, ville où il s'est rendu pour la première fois en 1964. Il fait froid sur l'eau, un froid humide et pénétrant qui surgit de la mer. Dans un palazzo, je vois quelqu'un allumer deux bougies sur un lustre. Toutes les autres fenêtres sont cachées derrière des volets dont la peinture s'écaille et voici que le dernier va se fermer aussi. Une femme s'avance et fait ce geste immuable. Les bras largement écartés, elle se penche vers les volets. Sa silhouette se découpe dans la faible lumière et ainsi se camoufle-t-elle, s'imposant à elle-même l'invisibilité. Mon hôtel se trouve juste derrière la place Saint-Marc. De ma chambre, je vois quelques gondoliers qui, malgré leur tardive, attendent encore le touriste, leur noir esquif doucement bercé par l'eau couleur de mort. Sur la place, je cherche l'endroit d'où la première fois j'ai aperçu le campanile et la basilique. C'était il y a longtemps, mais l'instant reste inoubliable. Le soleil ricochait sur la place, sur toutes les formes rondes et féminines des arches et des coupoles. Le monde basculait d'un quart de tour et la tête me tournait. Ici, des hommes avaient fait une chose impossible. Sur ces quelques lambeaux de terre marécageuse, ils avaient inventé un antidote, une formule magique, contre tout ce qu'il y avait de laid au monde. 100 fois, j'avais vu des images de l'endroit, et pourtant je n'étais pas préparé, parce qu'il était parfait. Cette sensation de bonheur ne s'est jamais dissipée, et je me souviens que je me suis engagé sur cette place comme si je bravais un interdit, passant des venelles obscures à ce grand rectangle dégagé et gorgé de soleil, avec au fond cette chose, cette invraisemblable dentelle de pierre. Depuis, je suis retourné bien souvent à Venise, et bien que le coup de la flèche de la première fois ne se soit pas répété, ce mélange de ravissement et de trouble est toujours là, même aujourd'hui, malgré la brume et les passages en planche contre la montée des eaux. Combien pèseraient ensemble tous les yeux qui ont un jour vu cette place ? C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.